Bonjour tout le monde, ici Investigate Europe. C'est le deuxième épisode de notre podcast en français. Je suis Anne-Laure Pinault, d'habitude je traduis les articles en français, mais aujourd'hui je suis derrière le micro. Nous allons parler d'un sujet épineux, le double standard alimentaire en Europe. Les multinationales vendraient à leurs clients de certains États membres de l'UE, en Europe de l'Est et en Europe centrale, des produits de moins bonne qualité que les pays de l'Ouest de l'Europe. En 2011, l'Association des consommateurs slovaques avait conduit des tests en laboratoire sur des échantillons de produits alimentaires, des boissons sucrées, du chocolat, du café instantané, achetés dans 8 pays différents de l'Union européenne. Les résultats avaient clairement montré des différences qualitatives dans la composition d'une majorité des produits soumis aux tests. En gros, on vendait à certains citoyens et citoyennes de l'UE la même barre chocolatée avec le même packaging, mais version low cost. De l'huile de palme au lieu de l'huile de tournesol, du sirop de glucose au lieu du sucre, j'en passe, et des meilleurs. En 2017, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, avait promis que cette situation allait changer. Dans une union égalitaire, il ne peut y avoir de consommateurs de deuxième classe, avait-il dit. Investigate Europe est allé vérifier si ces promesses avaient été respectées. Sigrid Melchior, notre correspondante suédoise, est spécialisée dans les institutions européennes. Elle dirige déjà notre enquête en cours sur les secrets du Conseil, et elle a coordonné cette enquête. Bonjour Sigrid, comment vas-tu ?
Bonjour, très bien, et toi ?
Super, au top. Quand est-ce que vous avez décidé de retourner faire un état des lieux sur ce fameux double standard alimentaire ?
Donc nous sommes une équipe avec des journalistes européens de toute l'Europe, mais on s'est aperçu que on oubliait parfois les questions qui étaient d'intérêt spécifique à l'Est et la différence de qualité possible. On était une question comme ça. Donc on s'est dit, on a envie de regarder ça. Et, oui.
Super. Et est-ce que cette question du double standard, est-ce que c'est parce que vous-même, vous étiez fait la remarque quand vous vous étiez déplacé en Europe, par exemple, ou est-ce que des collègues vous aviez fait remonter le fait qu'il y avait des différences entre les produits ?
Non, pas personnellement, mais je connaissais le débat qui a eu lieu à Bruxelles, comme tu as dit au début, en 2017. Mais je sais qu'en Suède, il n'y avait absolument pas un débat politique sur ça, ni en Belgique. Mais je vois qu'il y a des gens dans l'Est, ou surtout des gens qui se déplacent souvent entre deux pays, un pays de l'Est et un pays de l'Ouest. Un Polonais qui travaille en Norvège, par exemple. Il y a eu des témoignages anecdotiques sur une différence de qualité, mais personnellement, je n'avais jamais eu ce sentiment moi-même.
Et quand tu avais entendu ce qui s'était passé en 2017, quel avait été ton sentiment à cette époque-là ?
Ça m'a choquée, je n'avais jamais entendu parler de ça avant, et j'étais surprise, et ça m'intéressait. Et donc maintenant, on s'est dit, il y a eu ce débat en 2017, on voulait voir en 4 ans, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Qu'il y a cette différence ? Donc on s'est dit, un petit état de lieu, ça ferait du bien.
On est d'accord. Cette enquête a nécessité une organisation assez nouvelle et assez énorme en vrai. Vous avez dû acheter des produits un peu partout dans l'Europe. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Est-ce que c'était différent des autres enquêtes ?
Oui. Et c'est assez drôle, très pratique. On prenait le panier pour aller à la supermarché ou bien une vraie photo pour prendre des photos. Donc d'abord, j'ai coordonné ça avec mon collègue polonais. Donc, puisque je suis suédoise, mais j'habite en Belgique, on a pu regarder un peu les produits qu'on trouvait déjà en Suède, en Belgique et en Pologne. Et on s'est dit, voilà, on a un peu l'ouest, l'est, nord, sud peut-être. Et comme ça, on voyait des produits qu'on trouvait dans ces 3 pays. On avait choisi pour demander à toute l'équipe. Et puis, on a aussi essayé de choisir l'exemple le plus typique. Oui. Donc, avec les goûts généralisés. Donc, une pizza surgelée, on a choisi plutôt le jambon fromage plutôt qu'ananas curry qu'on pourrait trouver en Suède, par exemple. Mais évidemment, on n'a pas trouvé tous ces produits partout.
Oui, bien sûr. Quelle était votre hypothèse de départ quand vous avez mis tous ces petits produits dans votre panier ?
Bon, justement, on était très ouvert. On s'est dit, soit c'est... Il y a une différence de qualité Est-Ouest et c'est pareil qu'avant, qui a été prouvé avant. Donc, c'est intéressant de montrer qu'il y a une discrimination, si on veut, et on veut raconter là. Ou soit, ça a changé. Alors, ça nous intéresse aussi de raconter ça parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas en général.
Oui, un petit peu d'optimisme peut être agréable parfois.
Exact.
Vous avez comparé de nombreux produits entre eux. Est-ce que tu peux nous réexpliquer de quel type de produits il s'agissait et quelles ont été vos découvertes ?
Oui, nous avons comparé, je pense que c'était 24 ou 25 produits différents. Et c'était des biscuits, des chips, des pizzas, des bâtonnets de poisson, du ketchup, un peu ce genre de choses. Et ça, et en plus, on avait demandé l'information des producteurs des sodas. Et comme ça, on a rajouté ça à notre investigation. Donc, 5 sodas vendus en Europe. Et donc, on a comparé ces produits-là. On voyait différentes choses. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des différences. Il y a des différences entre les produits vendus sous le même nom. Donc, si toi et moi, on achète le même yaourt, toi à Paris, moi à Bruxelles, ça ne va pas être le même produit, en fait. Ce n'est pas le même contenu, même si on pense que c'est le même, puisque c'est le même nom. Donc, en plus que la moitié des produits, le contenu était différent. Donc, ça, c'est une chose. Mais après, est-ce que c'est une différence de qualité? Ça, c'est plus difficile à déterminer parce qu'il y a aussi des différences de goût local ou de culture et tout ça. Mais dans certains produits, on pouvait dire que bah, là, il y a une différence de qualité parce que les ingrédients sont moins chers ou de moins bonne qualité. Et là, on voyait des différences de qualité un peu dans tous les sens, que parfois, c'était meilleur dans des pays du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Mais pour deux ingrédients, et il y avait c'était clair la division entre l'est et l'ouest. Oui. Et ça, c'est pour l'huile de palme qui était plus courant dans les produits vendus à l'est, et aussi le sirop glucose fructose qui était aussi plus courant dans l'est.
D'accord. Et tu parles de l'huile de palme, c'est un produit qui a une triste réputation. On en parle souvent quand on parle des conséquences de sa culture sur les forêts équatoriales, par exemple. Pourquoi est-ce que les pays de l'Est sont-ils plus servis en huile de palme que les autres, selon vos découvertes?
Bon, ça, c'est un peu de la spéculation, mais ce qu'on peut dire, c'est que on peut guère parler de différents goûts traditionnels, parce que déjà, l'huile en soi, c'est dans un processus avant, et on enlève le goût. On va l'utiliser dans les glaces, des biscuits et tout ça. Donc, c'est pas une question de goût. Et évidemment, c'est pas non plus une question de production locale, puisque les palmes sont cultivées à bout du monde. Donc, c'est une question de coût. C'est moins cher. Et c'est aussi, je pense, que c'est aussi une question de... Ça reflète le poids des consommateurs dans différents pays, parce que c'est un produit, enfin, c'est un ingrédient qui a une mauvaise réputation. Donc, ça, je pense que... Ça montre aussi dans quelle société on demande, on regarde les listes d'ingrédients et on demande plus de choses des producteurs. Donc, le taux de développement économique, c'est quand même couplé avec ce genre de demande des consommateurs.
Surtout que l'huile de palme, il y a aussi, vous le soulevez dans l'enquête, le fait que c'est et possiblement des conséquences sur l'organisme, puisque dans le processus de traitement du produit en lui-même, il y a des dangers.
Oui, et puis c'est toujours difficile de dire aussi ça change tous les temps. Est-ce qu'on pense c'est meilleur pour la santé ça change avec la science. Mais c'est sûr que l'huile de palme, ça a un taux de gras saturé bien plus élevé que toutes les autres huiles végétales qu'on change l'huile de palme, l'huile de colza ou maïs et tout ça. Donc, c'est probablement pas bien pour la santé non plus et surtout pas pour le climat.
Bien sûr. Est-ce que c'est la même chose pour le sucre et le sirop de glucose fructose?
Là, on peut pas vraiment parler des différences de santé parce que, je veux dire, glucose, fructose, c'est des deux types de sucre. Et ce qu'on appelle sucre de table, c'est sucrose. C'est juste un autre type de sucre. Et on peut pas dire qu'il a un meilleur ou pire pour la santé. Il y a des gens qui disent que c'est un meilleur goût, le sucrose, que le glucose et fructose. Il y a eu des tests comme ça aux États-Unis, surtout. Donc ça, c'est une chose, le goût. Mais c'est sûr que c'est bien moins cher, le sirop, glucose, fructose, plus que c'est beaucoup moins cher que le sucre. Parce que le sucre, il faut quand même pouvoir cultiver des betteraves à sucre ou des cannes.
La canne.
Oui, mais ce sirop, c'est produit à la base de l'amidon. Et cet amidon, on peut le faire avec n'importe quel, avec maïs ou patate ou blé. Donc, on peut le produire localement.
Oui, ouais, d'où le fait que ce soit utilisé, ça peut être utilisé un peu partout.
Voilà. Et c'est ce qu'ils disent aussi quand on demandait à notamment Coca-Cola Company qui produit Coca-Cola, Fanta et Sprite. Et donc ces trois sodas, c'est une division très nette. Dans tous les Coca-Cola vendus dans l'Europe de l'Est, il y a ce sirop, et tous les Coca-Cola vendus à l'Ouest, il y a le sucre. Donc Coca-Cola normal, pas zéro. Et là, on demandait pourquoi, et ils disent que bah, ça, c'est des chaînes de production régionales, donc on utilise l'amidon local dans l'Est, et ils disent que c'est pour pouvoir vendre un produit avec le même goût adapté au pouvoir d'achat. Donc, en gros, ils disent que c'est moins cher et du coup, ils vendent ça dans les marchés où les gens sont moins riches.
Oui, on le lit dans l'enquête, ils parlent presque de circuit court. Enfin, limite, ils disent que c'est vertueux comme recette.
Oui, 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 oui.
Et justement, ces grandes entreprises agroalimentaires, quand vous êtes arrivés avec ces résultats, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ?
Ça dépend. Il y en a qui ont juste pas voulu répondre. Il y a d'autres qui ont dit, par exemple, Lidl. On avait comparé une confiture qui est la marque Lidl, enfin, leur propre marque. De voir ça aussi.
La marque distributeur.
Voilà. Et là, il y avait pas mal de différences. Il n'y avait pas de différence Est-Ouest, mais des grosses différences entre la même confiture vendue dans différents pays. Et on demandait pourquoi. Et eux, ils se sont dit que, en fait, c'est pas la même marque. C'est la même gamme, mais c'est différents types sous cette gamme. Mais, je veux dire, ils sont quand même vendus sous exactement le même nom.
Oui.
Donc, ça, c'est une réponse qu'on a eue. Et sinon, ce qu'on a vu aussi par rapport à l'huile de palme, c'est qu'on a vu qu'il y avait une différence entre... On a eu des indications que c'était plus courant avant l'huile de palme dans les produits vendus à l'Est. Par exemple, les biscuits Oreo, ces biscuits américains. Là, quand on regardait l'information dans les supermarchés en ligne, on voyait dans les listes d'ingrédients qu'il y avait l'huile de palme. Mais quand on achetait le produit dans un supermarché physique, il n'y en avait pas là-dedans. Et on demandait aussi pourquoi. Et ils sont les producteurs. Et donc ça, c'était pour les biscuits et les chips dans certains pays de l'Est. Et ces producteurs-là, ils ont dit, oui, on a changé la recette. Maintenant, on a plus l'huile de palme, mais les supermarchés, ils ne sont pas encore changés cette information en ligne. Donc, on avait des indications que c'était bien plus courant avant, mais ce n'est plus le cas maintenant.
Oui.
Et ça, on voyait pour plusieurs produits, en fait.
Et vous avez eu aussi une réponse concernant les pizzas surgelées, où là, pour ce cas-là, il y avait des pizzas qui étaient vendues sous un nom dans certains pays de l'Est et d'autres pizzas vendues à l'Ouest. Et il y avait une différence dans la composition, mais eux, ils disaient que c'était deux pizzas différentes.
Voilà, mais c'était deux pizzas différentes. C'était que là, on a tombé par hasard sur ça, parce que on avait décidé, OK, on va comparer le pizza Dr. Oetker, jambon fromage. Et puis, il y avait notre collègue en Bulgarie qui ne trouvait pas celui-là dans son supermarché. Et du coup, elle avait acheté quelque chose qui semblait pareil. C'était aussi Dr. Oetker.
Équivalent.
Équivalent, exact. Mais c'était jambon fromage et pesto. Et là-dedans, il y avait l'huile de palme dans nos pizzas à nous qu'on avait comparé et on n'avait pas. Mais en fait, c'était une autre marque. Et quand on regardait plus près, on demandait à Dr. Oetker, ils ont dit, oui, en effet, il y a de l'huile de palme dans ce produit-là. Et ça, c'est un produit qui est que vendu dans les pays de l'Est. Oui.
Il faut croire que leur pesto était plein d'huile de palme.
Voilà, exact.
Donc, pour faire un petit résumé, on peut dire que la situation a beaucoup évolué depuis 2011. Mais est-ce que vous pensez que l'Union européenne va parvenir à faire en sorte que tout le monde achète la même chose en Europe ?
Oui, ça c'est la question, parce qu'ils ont quand même promis qu'on va faire quelque chose en 2017. Et ce qu'ils ont fait, enfin, les politiciens européens, c'est qu'ils ont changé. Il y a une directive européenne qui s'appelle la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Et en fait, c'est pas illégal de vendre deux choses différentes, Coca-Cola avec le sirop en Pologne et Coca-Cola avec le sucre en France. Ça, c'est pas illégal. Mais si on vend un produit sous le même nom, avec le même packaging, et que cette différence est suffisamment grande pour qu'on puisse penser que le consommateur aurait fait un autre choix s'il le savait, là, ça rentre dans cette directive-là. Parce qu'on a changé cette directive depuis le débat en 2017 et on a rajouté un petit article qui dit justement ça, que suffisamment grande différence, ça peut être une pratique commerciale déloyale. Mais donc, il y a cette possibilité maintenant dans la loi européenne, mais il reste à voir s'il y a... Pour tester cette loi, il faut aussi qu'il y ait des consommateurs qui se plaignent. Et je pense que c'est assez rare qu'il y ait une personne qui peut comparer les mêmes des produits vendus dans plusieurs pays et qui peut aller se plaindre. Et si ça se fait, ça va sans doute être des organisations de consommateurs qui sont en coopération et tout ça. Mais ça reste à voir maintenant si on peut utiliser cette nouvelle loi.
Ah, on espère en tout cas. Merci beaucoup Sigrid pour ton point de vue sur cette passionnante enquête que vous pouvez tous et toutes lire sur notre site dans la section magazine. Si cette enquête vous a plu, et les autres aussi, n'hésitez pas à devenir donateur ou donatrice. Travailler sur ces enquêtes cross-border demande du temps, des journalistes, du talent et de l'argent. Même 5 euros par mois, c'est énorme pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir Sigrid.
Au revoir.